Vous êtes toujours à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 14h en temps universel, 15h ici à Paris.
Pierre Boudias.
Colère en Israël après la libération de trois nouveaux otages ce matin. Des hommes visiblement amaigris exposés sur une tribune de la bande de Gaza. Un vrai crime contre l'humanité, dénonce le président israélien. De bons chiffres qui tombent mal pour l'Allemagne. L'excédent commercial de Berlin vis-à-vis des États-Unis atteint un nouveau record. De quoi alimenter les velléités de taxation douanière du président Donald Trump. La gauche espère le triomphe au Kosovo. Élection législative demain dans le pays des Balkans aux 2 millions d'électeurs. La formation du premier ministre sortant est donnée très largement favorite. Et puis la viande de bœuf bolivienne privée d'export, décision du gouvernement pour faire face à l'inflation. Opposition et secteur de l'élevage dénoncent une mesure néfaste pour l'économie. C'est donc à une libération au goût amer qu'ont assisté les Israéliens ce matin. Trois nouveaux otages ont été relâchés par le Hamas dans le cadre de l'accord de trêve dans la bande de Gaza. Une nouvelle fois, le mouvement palestinien avait décidé de mettre en scène cette libération. Libération de trois hommes kidnappés le 7 octobre, exhibés sur une tribune en compagnie de combattants palestiniens. Ils sont apparus très amaigris. Bonjour Vincent Danilo.
Bonjour Pierre.
Un aspect physique qui a choqué les Israéliens et provoqué la colère du gouvernement.
Voilà ce à quoi ressemble un crime contre l'humanité. C'est par ces mots que le président israélien Isaac Herzog a commenté les premières images de la libération des trois otages. Dans son message posté sur le réseau social X, il a appelé à ce que le monde entier regarde le visage émacié et souffrant de ces hommes. Il a aussi dénoncé une mise en scène cynique et cruelle orchestrée par le Hamas. Lors de la libération des otages, des combattants du Hamas armés et masqués ont exhibé les trois hommes sur un podium avant de les remettre à la Croix-Rouge. Les trois otages qui ont passé 16 mois en captivité sont apparus très amaigris, faibles, le visage émacié et le teint gris. Alors qu'il est toujours en déplacement aux États-Unis, Benjamin Netanyahou, le premier ministre de l'État hébreu, s'est également exprimé dans un communiqué. Il a quant à lui dénoncé des images choquantes, tout en poursuivant que cela ne restera pas sans réponse. Les deux dirigeants se sont contentés de publier un communiqué en ce jour de Shabbat pour ne pas risquer de froisser les plus fidèles de leurs électeurs.
Vincent Danilo, réaction également de l'Allemagne, Berlin, qui juge insupportables les images de ce matin. Côté palestinien, ce sont 183 détenus qui ont retrouvé la liberté aujourd'hui, relâchés des prisons israéliennes. Une partie d'entre eux a été accueillie dans la liesse à Ramallah. Là encore, l'état de santé de ces prisonniers a provoqué des critiques du Hamas qui accuse l'administration pénitentiaire israélienne de tuer à petit feu ces détenus. Sept personnes ont dû être hospitalisées après leur descente des bus en Cisjordanie, selon le club des prisonniers palestiniens. L'enquête sur l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad peut être relancée. Le chef de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques est à Damas aujourd'hui. Fernando Arias a rencontré le président par intérim, Ahmad al-Sharré, premier déplacement dans le pays depuis la chute du dictateur syrien accusé d'avoir utilisé du gaz sarin contre sa propre population au début des années 2010. Au moins une trentaine de morts dans une attaque de djihadistes présumés au nord du Mali. Un convoi transportant des civils est escorté par l'armée et les paramilitaires du groupe Wagner, a été pris pour cible hier sur l'axe Ansongo-Gao. Selon plusieurs sources, les victimes sont des civils et des militaires. RFI, il est 15h03 à Berlin comme à Paris. L'Allemagne qui a reçu une nouvelle en forme de cadeau empoisonné en pleine escalade douanière de Donald Trump. Berlin a dégagé un excédent commercial record avec les États-Unis. L'an dernier, il dépasse les 71 milliards de dollars, des chiffres qui ne devraient pas du tout plaire aux locataires de la Maison Blanche, Altine Lazage.
Malgré la crise qui frappe son économie, l'Allemagne a encore accru le solde de sa balance commerciale avec les États-Unis. Les exportations allemandes ont ainsi augmenté de près de 4% sur un an. Les États-Unis sont même redevenus l'an dernier le premier partenaire commercial de l'Allemagne, une place qu'ils avaient perdue en 2016 au profit de la Chine. Ces chiffres ne font qu'augmenter le risque d'une réaction négative de la part de Donald Trump. Lors de sa campagne électorale, il avait déjà pointé l'excédent commercial de l'Allemagne. Ils ne prennent rien de nous, mais ils nous envoient leurs Mercedes, BMW, Volkswagen, des millions et des millions de ces voitures, dénonçait-il. Berlin, comme d'autres capitales européennes, est donc dans le viseur de l'administration Trump. Une hausse des droits de douane serait un nouveau choc pour l'économie allemande qui connaît une récession depuis 2 ans. Et pour 2025, la Banque fédérale n'est pas optimiste. Elle prévoit une très faible croissance du PIB de l'ordre de 0,2%.
l'Allemagne, où près de 100 000 personnes manifestent en ce moment à Munich contre l'extrême droite, une marche qui coïncide avec la démonstration de force des nationalistes européens réunis à Madrid, Viktor Orban, Matteo Salvini ou Marine Le Pen, réunis autour du parti d'extrême droite espagnol Vox et du slogan « Make Europe Great Again » en pleine dynamique électorale sur le vieux continent. Ces formations alliées au Parlement européen appellent à un virage à 180 degrés de la politique des 27, notamment en matière d'immigration ou d'environnement. Et à rebours de la montée des ultra-conservateurs européens, le Kosovo se dirige vers une large victoire électorale de la gauche. 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain pour les législatives de ce pays des Balkans. Le parti de l'actuel Premier ministre, Albin Kurti, est donné largement favori. Ses partisans espèrent remporter la majorité absolue au Parlement. Reportage lors d'un des derniers meetings de campagne de Louis Seyé.
Assis tout en haut des gradins d'une salle de sport pleine à craquer, Fadil Hoxha se prend en selfie au milieu des drapeaux albanais. Ce trentenaire guette avec impatience l'arrivée du Premier ministre candidat.
Nous, le peuple albanais du Kosovo, on attendait un changement depuis 20 ans. Et ces 4 dernières années, tout le monde a pu voir que ce changement est arrivé. On espère vraiment dépasser les 50% de voix dimanche.
Debout au milieu des tribunes, Dean Hoti agite un immense drapeau des États-Unis. Revenu exprès de Floride pour voter, ce membre de la diaspora kosovare reprend le slogan de campagne d'Albin Kurti.
Il a assuré l'intégrité et la souveraineté de l'État d'un bout à l'autre. Il a aussi mis en place des petites allocations pour les enfants et pour les mères qui ont leur premier enfant.
Intransigeant dans le dialogue avec la Serbie, le Premier ministre Kurti s'est mis à dos les partenaires internationaux du Kosovo et notamment l'Union européenne. Des critiques injustes selon Lendrit Katona, un économiste de 48 ans.
L'Europe n'avance pas avec servilité, elle avance grâce au mérite, au travail, au respect des droits humains. C'est ce que fait Kurti.
Le parti de gauche souverainiste du Premier ministre espère renouveler l'exploit d'il y a 4 ans et remporter à nouveau une majorité absolue. Louis Seyé, Pristina, RFI.
Les partenaires occidentaux de l'Ukraine appelés à investir dans les terres rares du pays. Message lancé aujourd'hui par Volodymyr Zelensky. Il évoque déplacement de ses alliés proches dans les ressources minérales du pays. Le président ukrainien répond ainsi à Donald Trump. Il évoquait un accès facilité aux gisements de lithium ou d'uranium et autres métaux rares présents dans certaines régions du pays, notamment celles sous occupation russe. Donald Trump qui va devoir poursuivre son bras de fer avec la justice fédérale américaine. Un juge bloque ce samedi l'accès de la commission à l'efficacité gouvernementale au système de paiement du Trésor américain, un système qui gère des milliers de milliards de dollars de financement public et qui s'était octroyé les membres de l'agence dirigée par Elon Musk, agence chargée de couper dans le budget de l'État. Le magistrat répondait à une action intentée par les procureurs de 19 États qui s'inquiétaient de fuites de données confidentielles. L'administration américaine qui se rend par ailleurs coupable d'une campagne de désinformation contre l'Afrique du Sud. C'est en tout cas la réponse de Pretoria après la suspension des aides américaines en raison de politiques jugées discriminatoires par Donald Trump, alors que le président américain considère une loi d'expropriation sud-africaine raciste envers la minorité blanche. La présidence sud-africaine dénonce un décret qui ne reconnaît pas l'histoire profonde et douloureuse de l'Afrique du Sud en matière de colonialisme et d'apartheid. En Bolivie, l'inflation et la crise économique continuent d'affecter la population. Pour y faire face, le gouvernement a décidé de suspendre totalement les exportations de viande de bœuf, une mesure rejetée en bloc par l'opposition et le secteur des éleveurs bovins. Correspondance de Nils Sabin à La Paz.
Après les exportations d'huile qui avaient été suspendues plusieurs semaines au mois de décembre, c'est maintenant la viande de bœuf bolivienne qui ne peut plus être vendue à l'étranger. Alors que les prix de cette denrée atteignaient des sommets dans le pays, le gouvernement a décidé que les exportations de viande de bœuf seraient suspendues tant que les prix ne reviendraient pas à la normale. L'annonce a provoqué un tollé chez les éleveurs bovins. Klaus Frerkin, vice-président de la Chambre d'agriculture de Santa Cruz.
Nous demandons au président qu'il change immédiatement les vice-ministres à l'origine de cette décision avant qu'il ne prenne d'autres décisions néfastes pour le porte-monnaie de la population du fait de leur amateurisme.
Pour les éleveurs, cette décision va plonger la Bolivie encore plus profondément dans la crise. C'est également le point de vue d'Eric Morón, sénateur d'opposition.
Au lieu de libérer les exportations, il les bloque. C'est le monde à l'envers. Nous allons nous retrouver sans exportation, sans production, sans dollars.
Depuis 2 ans, la Bolivie manque cruellement de dollars et les exportations de viande de bœuf représentent un marché de plus de 200 millions de dollars par an pour le pays. La crise du billet vert n'est donc pas prête de s'arrêter. Nils Sabin, La Passe, RFI.
Et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur RFI. La journée spéciale intelligence artificielle continue. Valérie Nivelon en direct de la BNF dans un instant pour la marche du monde.